RCF.
Bonjour à tous et bienvenue au pied de la lettre, le rendez-vous avec la littérature sur RCF. À 15 ans, Dom se retrouve bien seul, son père est mort, sa mère perdue à l'autre bout du monde. Les secrets de famille se dévoilent petit à petit. Le grand adolescent veut savoir et pourtant, une fois qu'on a entendu les mots, on ne peut plus reculer, dit-il. De la Bretagne au Cap Horn, c'est un voyage initiatique qu'il entreprend avec de bonnes fées pour l'accompagner par gros temps. « Tout ce que tu vas vivre » de Lorraine Fouché est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est l'histoire d'une famille qui n'en est pas une puisque les quatre filles du château des Marguerites sont en famille d'accueil sous l'autorité stricte de Mademoiselle Eugénie. C'est Jeanne qui nous raconte l'enfance et ses blessures, cette vie qui va petit à petit. L'aînée est responsable des petites. C'était Ma petite sœur, le nouveau roman d'Yves Violier est publié aux presses de la Cité.
Au pied de la lettre, Christophe Héning.
Bonjour Yves Violet.
Bonjour.
On ne compte plus le nombre de romans, de récits que vous avez pu écrire, enfin si je me suis amusé. 38e, je ne me trompe pas?
Peut-être, peut-être. Je n'ai pas fait le décompte, je ne sais pas.
L'histoire, c'est l'histoire, l'avant, enfin votre inspiration, c'est l'histoire, la Vendée, le grand âge aussi, avec ce très beau livre « Y avez-vous dansé, toi, nous ?» paru il y a 2 ans. Et puis surtout, régulièrement, il y a l'enfance. Pour l'ancien professeur que vous êtes, c'est un domaine de prédilection.
Oui, certainement. Et d'ailleurs, ce roman-là, je le dois à mon métier de professeur. Oui, l'enfance compte beaucoup pour moi et ses déchirures. L'enfance, j'ai toujours aimé ces élèves, enfin, j'ai aimé être proche de ces élèves chez qui je voyais dans le regard une certaine faille. Et c'était important pour moi d'être un compagnon de voyage, au moins pendant une année ou deux. Mmh. Et quelquefois, j'ai eu beaucoup de bonheur à partager ce chemin-là avec eux.
Oui, l'enfance, c'est pas toujours une période facile
non,
à vivre pour
non,
certains.
Non. Mais on a tous eu des professeurs qui ont compté pour nous et qui sont encore aujourd'hui des repères. Et je pense que c'est le rôle du prof de jouer ce rôle d'intermédiaire. Et dans C'était ma petite sœur, je vous dirai comment j'en suis venu à la rencontrer, cette petite sœur.
On va en parler après. Bonjour Lorraine Fouché.
Bonjour.
C'est votre 20e roman, là j'ai compté, c'est bien
ça? Oui, ça, ça 20e. C'est vrai, 20e.
Il y a toujours dans vos histoires un peu de votre propre histoire. Cette fois-ci, c'est peut-être encore un peu plus. Il y a l'île de Groix où vous habitez, l'excursion au Cap Horn que vous avez vécue, une femme médecin. C'est un peu une manière de partager votre propre existence?
Je crois que c'est un peu ce que Yves vient de vous raconter, sauf que moi je n'avais pas d'élèves, mais j'avais des patients. Et quand on est médecin d'urgence, on rentre pour un temps très court mais très intense dans la vie de ces patients, parce que généralement la plupart du temps on les voit chez eux, donc on voit s'il y a des livres, s'il y a des animaux, s'il y a quelqu'un, s'il y a des enfants, et on les aime. Et après j'ai tellement pendant 15 ans rencontré de patients que j'espère que j'aurai bien plus de 20 livres encore.
Mmh. Beaucoup de choses à raconter, on va y venir. Et puis toujours avec nous Camille Perrier. Bonjour Camille.
Bonjour Christophe.
Camille qui m'aide à préparer l'émission et qui nous partagera quelques lectures. Alors, Jeanne, Monique, Thérèse, trois fillettes des années 60, quittent l'orphelinat pour être accueillies dans une famille d'accueil, dans un grand château, pour y vivre des jours heureux. Mais ce n'est pas si simple. C'est Jeanne qui raconte.
Oui, Violier. C'est Jeanne qui parle. Elle a 7 ans. Elle vient d'être accueillie dans le château des Marguerites avec ses deux petites sœurs, ses deux demi-sœurs, comme elle le dit,
découvre.
Et comme c'est la réalité. Elle les découvre d'ailleurs, ces petites. Elle est une enfant de la maltraitance. Sa maman est une femme enfant, comme elle dit et on l'a retirée, l'assistance publique l'a retirée à sa maman. Et elle espère... Elle croit, quand elle arrive aux Marguerites, qu'elle va trouver enfin un nid, une famille. Et tout son parcours, tout ce qu'elle va dire, c'est elle qui parle dans le roman, ça va être cet effort pour trouver une identité. on est de son enfance comme on est d'un pays.
C'est une citation en exergue de votre livre.
Et c'est ça tout le chemin de Jeanne, qui va être un chemin douloureux, parce qu'elle porte, elle va vivre avec cette déchirure constamment. Elle croit que Mademoiselle Eugénie, qui l'accueille dans le château, va être sa mère, mais un jour Eugénie aura la cruauté. Elle est curieuse, Eugénie. C'est presque une folle coche, mais pas seulement. Elle est une éducatrice quand même, mais elle ne veut pas être une maman. Or, les trois filles voudraient
n'attendre que ça. D'autant plus que Jeanne, elle, vous l'avez dit, hein, elle a été battue avant dans une précédente famille. Alors, elle est enlevée à sa mère, qui ne peut pas s'en occuper, et elle est confiée à une famille d'accueil qui elle-même va la frapper.
Elle va souffrir de maltraitance et on va à nouveau l'enlever et elle va se retrouver dans le château.
Alors
de
là, on peut pas dire que dans cette existence au château avec ses demi-sœurs plus petites, on peut pas parler de maltraitance pour autant.
Non.
Mais il y a un bonheur qui est inaccessible.
Elle veut de l'amour. Or, elle ne le trouve pas. Elle va le trouver d'une certaine façon avec les grands-parents, avec Momon, avec les grands-mères. Là, ce sont des moments chauds.
Ouais,
là,
on les sent plus bienveillants quand même. C'est quasi grands-parents.
Oui, c'est ça. Et elle va essayer là. Elle le dira à Momon un jour. Je croyais que vous m'aimiez. Mais elle se retrouve avec une Eugénie qui a la dent dure. On est dans les années 60, bien sûr, on les mène à la baguette, comme l'éducation existait à ce moment-là. Mais surtout, c'est d'une certaine façon une maltraitance psychologique dont elle va souffrir, la maltraitance d'Eugénie.
Eugénie qu'il faut appeler mademoiselle et non
qu'il
pas...
Qu'il faut appeler mademoiselle.
Et non, ni maman, ni Eugénie.
Certainement pas.
Et puis, il y a aussi ce prêtre
qui est là.
On ne sait pas bien ce qu'il fait là, qui est aussi une figure d'autorité.
Oui, qui va être l'éducateur en chef, la voix du prêtre qui est là lorsque Jeanne découvrira un peu le secret de
sa présence.
De sa présence, là aussi, ce sera d'une certaine façon, même si elle ne juge pas après tout, mais ça pourrait être une blessure aussi. Elle accumule au cours de son enfance des blessures successives et elle va avoir du mal ensuite.
Parce qu'il y a beaucoup de secrets, comme chez Laurel Fouché.
Oui,
il y a beaucoup de secrets dans cette histoire.
Le secret, bien sûr, de la naissance de Jeanne aussi.
Bien sûr.
Son papa, sa maman étant une femme enfant, elle a sa maison près de la caserne là-bas et les enfants vont s'imaginer un père glorieux, un père capitaine. Ils vont essayer de se construire d'un bout à l'autre, ils essaient.
On cherche ses racines.
Oui,
surtout confrontés aux autres enfants à l'école.
Oui, il y a aussi le quotidien de l'école qui n'est pas tendre. On sait que ces trois petites ne sont pas les filles,
c'est les filles de
Mademoiselle Eugénie. Elles sont celles qu'on a adoptées, accueillies. Et les autres gamines leur font bien remarquer.
Ce qui est intéressant, ce que j'aime bien, c'est que dans vos personnages, ils ne sont pas non plus tout noir ou tout blanc. On parle d'Eugénie, par exemple. On sent cette femme aussi, dans les années 60, qui est à la fois très droite, sur les très traditionnelle, et en même temps attirée par une certaine modernité, indépendance, autonomie.
Oui, c'est une femme libre. C'est une femme, d'une certaine façon, en avance sur son époque.
Ouais, et en retard par rapport
à son rapport
avec l'enfance.
Et en même temps, elle est ambiguë. Il y a une ambiguïté chez elle. Je ne sais pas si je l'aime ou si je la déteste. Elle est détestable quand elle dit à Jeanne, je ne serai jamais ta mère. Elle est détestable quand elle va par la suite monter dans sa voiture l'une des filles et puis laisser les autres aller à l'école à pied. Et la petite qui est dans la voiture, la nouvelle venue, Charlotte, elle fait bonjour à ses demi-sœurs.
Parce qu'il y a Charlotte qui arrive, c'est-à-dire que la maman a encore un enfant.
Petite fille.
On ne connaît pas non plus l'origine. Donc une nouvelle demi-sœur qui arrive donc au château.
Oui, Charlotte, mais là elle arrive bébé. C'est un bébé qui arrive au château et on leur dit,
ça change tout.
On dit aux filles, vous avez une petite sœur, c'est formidable pour les filles, elles sont heureuses. Mais chez Jeanne, il y a déjà un doute. Quand elle va se retrouver en face de ce bébé, elle se pose déjà des questions. Quelle est l'idée que Génie peut avoir derrière la tête? Et elle ne se trompe pas.
Voilà, pourquoi Génie, si sévère, oui, aurait un si grand cœur pour accueillir...
On peut comprendre que Génie souhaite avoir un enfant. On peut comprendre qu'elle accueille chez elle ses trois filles. J'ai rencontré beaucoup de familles qui accueillent comme ça. Et c'est remarquable le chemin, ce que font ces familles pour accueillir des enfants. Eugénie fait ce chemin-là, mais elle a aussi derrière la tête une autre idée. Elle a ce château, il y a toutes ces idées qui sont derrière. Mmh. Pourquoi va-t-elle vouloir adopter l'une des filles? Et pourquoi l'une et pas les autres?
Est-ce que ça veut dire que la générosité n'est jamais véritablement gratuite?
Elle est peut-être sujet à caution.
Il y a parfois un intérêt, quoi.
Oui, c'est ça. Et là, il y est certainement. Mmh. Même s'il n'est pas dit, à chaque fois, il y a des non-dits. Jeanne est témoin de ce qui se passe, témoin et victime. Et elle est en recherche de tendresse constamment.
Oui, puis elle se cherche. Hein, à un moment, vous écrivez, « Je n'inspire pas confiance aux oiseaux. Peut-être faudrait-il que j'aie un peu plus confiance en moi. »
Ah oui. Mais comment pourrait-elle avoir confiance en elle, avec l'enfance qu'elle a eue, avec cette famille qu'elle n'a pas, cette identité qu'elle n'a pas?
Il y a quand même Jacqueline, oui, qui est la copine de Génie. Mm-hmm. On va essayer de ne pas se perdre.
Oui,
hein,
oui.
La copine de Génie, oui, et qui, elle, est une femme célibataire, indépendante.
Une enseignante,
oui, qui habite un peu plus loin, qui est, oui, un peu sa marraine, quoi.
Oui, d'ailleurs, elles vont l'appeler marraine. Elles sont toutes en recherche de marraine, d'ailleurs, hein. Et Jacqueline, elle, est une femme équilibrée. C'est une amie de Génie. On se pose même la question, comment peut-elle être amie, elle, Jacqueline, de Génie?
Avec cette Génie.
Mais là aussi, à l'enfance. Elles ont partagé une enfance, les mêmes petits copains, le même petit camarade. Donc, on en est tous là, on a tous des amis que quelquefois
qui ne nous ressemblent pas forcément.
Oui, qui ne nous ressemblent pas forcément, et même que quelquefois on pourrait condamner, mais ce sont des amis. On a partagé un bout de chemin et on reste toujours près d'eux. Et c'est le cas. Jacqueline, heureusement, va être quand même un point d'ancrage pour Jeanne et pour ses sœurs. Elle va les accueillir, elle va devenir une confidente et elle va les accompagner aussi pendant tout leur chemin de vie.
Oui, c'est un adulte, oui, une adulte sur lequel on peut s'appuyer.
Oui.
Et puis, malgré tout, eh bien Jeanne, elle n'oublie pas sa mère.
Oui.
Puisqu'il y a des moments,
oui,
où elle se, oui, croise encore.
Oui,
dans
normalement, l'assistance impose à Eugénie des visites des enfants à leur mère. Bon, Eugénie évite autant que possible ses visites, mais enfin, au moins une fois par an, les petites vont retrouver leur maman qui a de véritables problèmes
d'équilibre
psychologique et d'accueil de ces enfants-là. Mais là aussi, il y a pour Jeanne un nid possible. Elle va aller, quand elle va être véritablement dans la détresse, elle va partir pour aller jusqu'à cette maison, la maison de sa maman, qui va être vide. Et pour elle, ça va être un moment particulièrement douloureux.
Là encore, elle cherche ses origines.
Hein. Oui.
Elle écrit aussi un moment, enfin elle, c'est vous qui écrivez, mais c'est elle qui nous dit « Nous avons reçu beaucoup de promesses qui n'ont pas toujours été tenues.
Oui. »
On ne se rend pas compte qu'on peut aussi y avoir des paroles un peu légères vis-à-vis,
oui,
des enfants, des engagements qu'on ne tient pas.
Je crois que ces enfants-là, en particulier, qui sont tellement dans le besoin, la moindre parole d'amour ou d'apparence d'amour qu'on leur donne, ils s'y accrochent, ils y croient jusqu'à ce qu'ils soient déçus. Et donc à chaque fois, c'est une rechute. Et c'est le cas pour Jeanne, mmh, et ses sœurs.
On sent que pour Jeanne aussi, il y a un attachement particulier à la nature, à cette région,
oui,
qui est la vôtre,
oui,
la Vendée.
Oui.
Une sorte d'échappée parfois.
Oui, d'une certaine façon, c'est ce qui la sauve. Elle aime les arbres, elle aime monter aux arbres, elle aime les animaux. Je reprends la parole de Saint-Exupéry, on est de son enfance comme on est d'un pays. Là, dans ce lieu-là, elle va tourner autour lorsqu'elle va partir, vivre sa vie. Elle va constamment revenir vers les marguerites en espérant là, hein, un port. Hein, d'ailleurs, elle le dira à la fin du roman, elle va apercevoir l'île, cette île-là, un soir, et elle va dire « tout mon chemin, c'est d'aller vers l'île ». Et son île, à elle, c'est certainement les marguerites.
Malgré tout, malgré ce qu'elle a vécu.
Malgré tout.
Parce que, ça c'est vous qui le dites aussi à la fin, me semble-t-il, hein,
ouais.
Guérit-on jamais de son enfance.
Oui, oui, oui. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui ont eu un parcours, pour écrire ce roman, qui ont eu un parcours semblable à celui de Jeanne. Et à l'âge de Jeanne, à la fin du roman, elles sont encore, peut-être encore plus marquées maintenant qu'elles pouvaient l'être quand elles avaient 30 ans. C'est quelque chose de véritablement profond et qui saigne encore.
Mmh. Ça, on peut pas, on va pas tout raconter, non, parce qu'il faut laisser un peu de suspense, mais vous accompagnez, hein, Jeanne,
oui,
jusqu'à l'âge adulte.
Oui.
Et là, on sent que, même si elle dit un moment, elle dit ma mère était une femme enfant, vous l'avez dit tout à l'heure, il me semble que je suis née vieille. En même temps, peut-être qu'elle reste une enfant blessée.
Oui. Oui, oui, bien sûr, ça l'a fait vieillir d'un bout à l'autre. Quand elle a 7 ans, quand elle a 9 ans, son regard est déjà, d'une certaine façon, un regard d'adulte sur le monde des adultes. Même si elle fait pipi au lit, même si elle sent bien sûr qu'elle ne peut pas passer par-dessus. Mais elle est joueuse aussi. Elle va connaître un premier amour comme ça, d'adolescente, qui va l'enflammer. Elle va vouloir... Elle va rêver d'un mariage et d'une famille, mais est-ce que c'est possible pour elle, avec les blessures qu'elle a connues dans son enfance? C'est tout le chemin d'une difficile résilience pour elle. Parmi ses sœurs, les autres, pour d'autres, en particulier pour Thérèse, ce sera peut-être plus facile, parce qu'elle est plus lisse, alors que Jeanne est une fille révoltée, qui a du caractère et donc qui ne pardonne pas d'une certaine façon les injustices.
Lorraine Fouché, je vous vois très attentif à ce que nous dit Yves Violier. Vous avez lu son livre, c'était Ma petite sœur.
Oui, oui, alors ça ne se fait pas d'interrompre l'auteur qui parle, mais moi j'avais envie de bondir.
Et ben alors allez-y, vous avez
mais
la parole.
Absolument, parce que ce qui est insupportable dans Eugénie, que moi je déteste, c'est l'injustice. C'est ça qui est terrible. Et les autres, j'ai commencé à lire ce livre et je crois la magie d'un livre, c'est que moi je n'ai pas eu de frères et sœurs, j'ai eu des parents. On commence à lire et on a de l'empathie et on devient Jeanne. Et on devient quelqu'un qui n'a pas de famille, qui arrive dans une nouvelle maison en se disant « elles vont m'aimer ». On voit la petite sœur arriver. Une chose que vous n'avez pas dite, engueulons l'auteur, c'est que quand ce bébé arrive, elle est blonde avec des yeux bleus, ce que n'est pas Jeanne.
Bien sûr.
Et ce qu'est une de ses petites sœurs.
Ouais, ouais.
Et tout d'un coup, elle a le visage de l'enfant parfaite selon Eugénie, alors que Jeanne n'a pas ces yeux-là.
Grande désillusion.
Mais voilà, c'est un très beau livre. Je l'ai trouvé solaire, je l'ai trouvé espérant. Je me suis énervée quelquefois, j'avais envie de lui dire, mais fais ça, dis ça. Et puis voilà, ces personnages sont devenus des amis de papier. J'ai vraiment passé un bon moment.
Surtout que Yves Violier ne fait pas les belles choses, tout simplement. Tout n'est pas beau, quoi. Il y a des choses difficiles.
Non, c'est
tout,
c'est la vraie vie et c'est l'enfance avec ce que ça a de terrible et puis ce que ça a de chaleureux et de beau et de tendre, mais et de cabossé aussi.
Mais je dois vous dire, Lorraine, que ce personnage de Jeanne, c'est sans doute l'un des personnages qui m'accompagne le plus, dont je n'arrive pas du tout à m'éloigner parce qu'elle m'est tellement attachée, attachante, qu'elle me demeure présente. Elle existe vraiment, c'est devenu une
elle
compagne.
Elle se bat pour
exister
vie. Finalement.
Oui, oui, c'est
Et
ça.
Et elle se bat encore.
Oui, elle est
dans
encore avec moi, oui. Ça ne m'est jamais arrivé à ce point-là.
D'avoir un personnage aussi
d'être habité comme
encombrant.
Ça.
Pas forcément.
À la fois encombrant, mais à la fois tellement attachant. Je l'aime. Hein, j'ose dire que j'aime mon personnage.
Mais vous auriez dû l'adopter.
Alors moi, je l'aime bien aussi.
Ah, alors voilà, elle a de la place dans les cœurs. Alors si je comprends bien, cette Jeanne, c'était ma petite sœur. C'est le roman d'Yves Yolier paru chez aux Presses de la Cité. Camille, on va lire un petit extrait.
Vous arrivez à 3, ça donne du travail à la maison. Nous avons organisé un calendrier des tâches ménagères. Vous serez heureuse, j'en suis sûre, d'aider à la vaisselle, au balayage et au ménage, mémé Georgette, la tante Louise et moi. En même temps, ce sera pour vous une excellente formation. Et pour éviter toute contestation, je vous ai réparti en deux équipes. Monique est encore jeune. Une semaine, elle sera avec Jeanne, l'autre avec Thérèse. Par exemple, le jour où Jeanne sera de vaisselle avec Monique, Thérèse balayera toute seule et l'inverse le jour suivant. Vous avez compris ? J'adapterai les tours au calendrier chaque semaine. Son œil vert et son œil brun brillaient. Elle souriait, mais il était clair que nous n'avions pas notre mot à dire. Elle a punaisé la seconde feuille auprès du règlement. Pourtant, la petite voix tremblante de Monique s'est élevée. « Je voudrais faire la vaisselle avec ma sœur Thérèse. »
Est-ce que tu veux bien être mon grand frère, m'aider à porter mes chagrins ? Me relever quand je prends un gadin.
Est-ce que tu veux bien être ma petite sœur, faire de moi le cran de quelqu'un, me rendre fort par tes yeux dans les miens.
Frère et sœur, même sang, des liens du sang. Frère et sœur, 202 sentiments. Frères et sœurs, même sang, les liens du sang. Frères et sœurs, pour cent mille ans.
Est-ce que tu veux bien être mon grand frère, celui qui me donne la main, pas comme un père ni comme un copain.
Est-ce que tu veux bien être ma petite sœur? On aura même des souvenirs d'enfance. Et si on les invente, quelle importance.
Frères et sœurs, même sang, des liens du sang.
Frères et sœurs, extrait du Soldat Rose à la Fabrique des Jouets. C'est Olivia Ruiz et Renan Luce qui chantaient en 2017. Au pied de la lettre sur RCF avec Lorraine Fouché pour Tout ce que tu vas vivre aux éditions Héloïse d'Ormesson et Yves Yolier pour C'était ma petite sœur aux Presses de la Cité.
Au pied de la lettre, RCF.
Ce que tu vas vivre, Lorraine Fouché, c'est votre livre. Alors, Dom a 15 ans, il joue aux jeux vidéo dans sa chambre et au même moment, un peu plus loin, dans le même appartement, son père est emporté par une crise cardiaque. Il n'est pas seul, il était dans les bras d'une femme blonde qui a appelé les secours avant de s'éclipser. Le fils et l'amoureuse doivent faire face au deuil du père et de l'homme aimé, en secret, parce qu'il y a une absente aussi, la mère.
Et oui.
Ça commence comme ça.
Ça commence fort.
Oui.
La mère est partie il y a 5 ans, la mère de Dom. Dom s'appelle Domnin, en vérité, mais tout le monde l'appelle Dom. Sa mère, chirurgienne, et a fait un burn-out et est partie il y a 5 ans au bout du monde, on ne sait pas où. Et donc, il vit avec son père à Montparnasse. Qui
elle
est
ne supporte
peu...
plus sa vie, elle... sa charge professionnelle.
Lui, il ne sait pas. Il sait que tout simplement, sa mère, qui était chirurgien pédiatrique,
a dû
tout
partir.
D'un coup, un jour, n'a plus été là et que son père lui a dit « Elle est partie soigner d'autres, des enfants au bout du monde. » Enfin, des enfants, elle est partie soigner les autres, mais pas lui. Et un jour, elle reviendra. Et donc, Dom est un Breton, parce que vous savez, dans tous mes livres, il y a la Bretagne,
bien sûr,
l'île de Groix
toujours.
Où j'écris. Et ils vivent à Montparnasse, qui est quand même une enclave bretonne au cœur de Paris. C'est la nuit, il est persuadé que son père dort à l'autre bout de l'appartement.
Pendant
et quand il entend du bruit, il pense que c'est sa mère qui est revenue, donc il cavale. Et là, il tombe sur une équipe du SAMU. Des hommes et des femmes en blanc.
On peut juste rappeler que vous avez été médecin urgentiste.
Absolument,
aussi.
J'ai été médecin au SAMU de Paris pendant des années. Et cette équipe n'arrive pas à réanimer son père. Et à un moment, on lui demande ce qu'est devenu la dame qui les a appelés et qui leur a ouvert, les médecins pensent que c'est sa mère et lui dit mais mon père était seul et on lui dit mais non. Et
quelqu'un
toute la question
la
est
porte.
Qui est cette femme dont les médecins lui disent c'est une dame blonde avec un t-shirt blanc et un jeans. Voilà, elle n'est pas la seule comme ça à Paris. Et il va devoir affronter la mort de son père, l'absence de sa mère dont il espère qu'elle va revenir.
Et le mystère de cette femme.
Et le mystère de cette femme.
Parce que là, du coup, dès le début, alors il se pose des questions. Enfin, dans l'immeuble, dans le quartier, il y en a plusieurs qui pourraient correspondre.
Oui, il va découvrir tout simplement dans le téléphone portable de son père des messages d'une femme dont il ne connaît pas le numéro de téléphone. Donc, voilà, il ne sait pas qui c'est. Et il comprend que cette femme habite soit l'immeuble d'à côté... que la nuit, pendant qu'il dormait, elle venait rejoindre son père, que c'est quelqu'un dont son père était amoureux, et il ne sait pas qui c'est. Et donc ce livre est construit, il y a deux narrateurs en alternance, Dom
et
l'amoureuse. Puis l'amoureuse, et le lecteur est comme Dom, c'est-à-dire il va rentrer dans les pensées de Dom, il va rentrer aussi dans les cœurs et les pensées de l'amoureuse, mais le lecteur ne sait pas qui elle est, jusqu'au moment où tous les deux vont s'envoler pour le Cap Horn, pour la Patagonie, où la vérité va éclater ou pas, et où ils sont dans le même avion, mais on ne sait toujours pas qui elle est.
Mmh. D'autant plus que, voilà, au début, parce qu'on suit Dom qui nous raconte les événements, on a l'impression que, voilà, cette femme, quand même, elle s'est imposée, enfin, il y a quelque chose de pas très clair, pas très net. On va se rendre compte, puisque quand elle intervient, c'est parce qu'elle est l'amoureuse, que c'est un véritable amour.
Bien sûr, c'est un véritable amour. La maman est partie. Pour Dom, lui, pense que ses parents sont unis, même si sa mère est absente. Alors que l'histoire nous montrera que ça n'est pas si simple et que ces deux adultes avaient parfaitement le droit et la chance d'être amoureux et peut-être de reconstruire quelque chose ensemble.
Alors c'est pas simple pour nous parce que il faut aussi qu'on respecte le suspense et qu'on ne dévoile pas trop de choses.
Absolument.
On sent quand même chez Dom ce fort sentiment d'abandon parce que il vit dans un immeuble où il y a toute la famille puisque l'immeuble a été acheté par le grand-père.
Le grand-père, voilà. Le grand-père a fait une invention, donc a gagné de l'argent à un
moment,
et
ça
une pièce d'accastillage, et il a acheté dans un vieil immeuble sans ascenseur des appartements pour ses enfants.
C'est la même famille à chaque étage, mais un caractère vraiment différent à chaque étage aussi.
Tout à fait. Il y a l'oncle Gaston qui va devenir le tuteur de Dom. Il y a la tante Tiphaine qui est la veuve du frère de son père. Et puis il y a la tante Désir. Et la tante Désir n'est pas une gentille, c'est la maman des cousins parfaits. C'est elle qui pense que ses cousins sont parfaits, mais en fait ils ne sont pas du tout gentils.
Mmh. Alors bon, ça on peut peut-être le dire aussi, il y a un moment, lui le fils unique apprend qu'il a une sœur en Argentine.
Il apprend dans les lettres de condoléances qu'il reçoit, il y a une lettre d'un inconnu qui affirme avoir bien connu ses parents en Argentine il y a 20 ans, il y a 18 ans au moment de la naissance de sa sœur. Sauf que Dom a 15 ans, il ne sait pas que ses parents sont allés en Argentine et surtout il n'a jamais entendu parler d'une sœur. Et toute l'histoire du livre, c'est que il se retrouve, il est fils unique, il est seul ayant droit de son père, c'est un mot qu'il apprend parce que quand on a 15 ans, on ne connaît pas ces mots de justice, de notaire. Et il découvre qu'il a peut-être une sœur qui n'est donc pas le seul ayant droit. Et toute la question est-ce qu'il a droit au bonheur? Est-ce qu'il est ayant droit au bonheur? Et je crois qu'il y a une autre chose qu'on peut dire qui m'a paru importante et pour moi c'est tout le pivot du livre, c'est la lettre testament. À un moment, il est en danger, il se met en danger et il va être aidé par une lettre qu'on lui donne, que
Très
son père
lettre.
A laissée pour lui. Et dans cette lettre, le livre s'appelle « Tout ce que tu vas vivre », son père lui dit « La chose importante, il faut que tu aimes la vie, il faut avoir du goût pour la vie, sinon elle se fâche. il ne faut pas manquer de savoir-vivre et surtout ne tue pas le temps parce que le temps ne meurt jamais le bougre. Mmh. Au contraire, il faut le remplir et tout ce que tu vas vivre sera magnifique.
Mmh. Bon, on lira ça tout à l'heure. Ça sera.
Ah.
On rit, on pleure, on aime, on se bat, on meurt. Il ne reste de nous que des objets. Ça, c'est important aussi parce que, eh bien, il y a des. Voilà, le père laisse forcément des objets et on a presque envie aussi de découvrir les autres objets de ces personnes absentes. Elle nous laisse des traces.
Alors, pendant que j'ai écrit ce livre, ma mère est partie au paradis en mars, d'il y a un an exactement.
Le 6 mars 2018, vous le dites.
Le 6 mars, oui.
Et dédicacé le livre.
Et j'ai écrit ce livre en traversant, moi, les étapes du deuil, du notaire, de tout ce qui va avec, de tout ce qui est à la fois triste et à la fois drôle. Quand, par exemple, le monsieur des pompes funèbres vous envoie un questionnaire avec « Recommanderiez-vous notre établissement à vos proches ?»
Ah, ça, vous l'avez
vécu. Notez de 1 à 10 le porteur, les fleurs et la messe. Mmh. Et c'est vrai que j'avais envie de le faire traverser cela en le tenant un peu par la main, ce dôme. Et j'ai mis aussi en exergue du livre deux phrases qui m'ont beaucoup frappée, une de Jean d'Ormesson et une de Françoise Dolto. Et l'une est « Nous mourons parce que nous vivons » et l'autre est « Nous mourons parce que nous avons vécu ». Et c'est vrai, il y a la mort qui, voilà, c'est quand j'étais médecin et que les patients me disaient « Docteur, j'ai peur, je vais mourir ». Au lieu de leur dire « Mais non », je leur disais « Mais oui ». Et puis une seconde après, je leur disais « Mais pas aujourd'hui, dans très longtemps, parce que je vais vous soigner et que ça va aller ». Donc voilà, la mort fait partie de la vie. Dom, à 15 ans, est au début de sa vie. Et le but du jeu est qu'il trace comme ça vers la pleine mer en essayant d'être heureux.
Mmh. On va y venir au Cap Horn, mais simplement un petit détour par la Bretagne, parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi hein, dans ces personnages. Je vous dis à un moment, en Bretagne, on est superstitieux parce que ça porte malheur de ne pas l'être.
Mais c'est vrai, vous savez qu'il y a l'Ankou, qui est la mort qui vient chercher
la mort avec
sur son bateau les personnes qui sont mortes. Il y a des tas de superstitions comme ça. La nuit, quand il y a des feux follets dans la lande, il faut pas s'arrêter. Parce que sinon, ils vous amènent dans leur ronde de sorcières. Mais il y a aussi dans cette Bretagne que j'aime. Je ne suis pas bretonne. Moi, je suis née à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Mais je suis tombée en amour pour la Bretagne, au sens large, avec ses 5 départements.
Toute la Bretagne et même ses îles.
Et ses îles, et les îles du Ponant, et puis l'île de Groix. Et ce que j'ai trouvé toujours très important, c'est la solidarité. C'est-à-dire, quels que soient les âges, quel que soit le statut social, quel que soit ce qu'on vote, quel que soit est-ce qu'on va à l'église ou est-ce qu'on n'y va pas. Et vous savez qu'en Bretagne, même les gens qui bouffent du curé, comme on disait, sont enterrés, il y a une messe et tout le monde y va.
Comme en Vendée, j'imagine. Hein.
Mais bien sûr.
Bien sûr.
Mais voilà, en Bretagne, on s'entraide. On est vraiment, que ce soit la Bretagne des terres où il n'y a pas de mer ou la Bretagne de la côte, on est sur le même bateau. Et il y a cette. Tout le monde s'épaule et ça, c'est important.
Et là, on sent aussi toute la famille est solidaire de ce dôme. Mais sauf qu'il faut lui laisser suffisamment d'autonomie parce que dans la famille, ses oncles et tantes n'ont pas tous la même réponse. Mmh. Il est soumis à certaines pressions.
C'est vrai. Et alors, comme il se retrouve tout seul, sa tante voudrait l'envoyer en pension où elle se débarrasserait de lui. Et puis en plus, comme elle habite juste en dessous, elle voudrait bien louer son appartement, faire un trou dans le mur et comme ça, elle aurait un duplex.
Un peu intéressée. Hein,
un peu méchante, oui.
Il y a un moment aussi, vous expliquez, c'est l'amoureux cette fois-ci, hein, qui regarde le fils qui est là. Ton fils va mal, c'est plutôt bon signe.
Ah, ça, c'est le médecin qui parle.
Expliquez-nous.
Quand on est triste... quand il se passe comme ça des deuils, des drames, des choses fracassantes, si les enfants sourient, gardent tout en eux et font comme si de rien n'était, ça veut dire qu'il se passe des ravages à l'intérieur et que il ne se laisse pas, il n'accepte pas les émotions et c'est très mauvais signe.
Ils ne vivent pas ce qui leur arrive.
voilà, c'est que une déprime va arriver, des problèmes vont arriver. Déjà, c'est dur, mais il faut parler. C'est ce qu'on... Moi, je me suis beaucoup intéressée à un moment à la psychiatrie, à la psychanalyse, et surtout pour les enfants, peut-être parce que j'ai fait mes études à Necker enfants malades, où il y avait beaucoup d'enfants. Et j'aime, dans... quand j'étais médecin, j'aimais soigner des ados. Et en tant que, qu'auteur, qu'écrivain, j'adore parler aussi avec les adolescents. Maintenant que nous avons les réseaux sociaux, ils nous écrivent. J'ai reçu la semaine dernière une lettre d'une adolescente me disant « J'ai lu votre livre et ça m'a changé la vie. C'est le livre qui m'a changé la vie. Je suis allée à l'île de Groix avec mon père, avec lequel je n'avais plus beaucoup de liens. » Et ça a changé complètement ma vie. Et j'étais tellement heureuse, parce que c'est ce qu'on peut offrir aux gens. Leur donner des ailes avec nos livres, leur parler de la réalité, ce que fait Yves Violier, ce que je fais. Voilà, ce ne sont pas des feel good books, dans le sens où la vie n'est pas rose et facile. C'est la vraie vie, avec avec les choses qui nous balayent, et la voile qui fasseille. Et puis il y a l'espoir, et puis il y a l'amour, et puis ça
cet appétit de
vivre,
ça
nous permet
aussi
de remonter, bien sûr.
Il y a cette très belle figure aussi, hein, de l'amoureuse qui ne peut pas parler de cet amour. C'est quand même un amour un peu secret,
et
qui doit vivre aussi le deuil.
Oui, parce que en fait, le père de Dom, qui s'appelait Iriex, déjà sa femme était partie, et pour Dom, il ne voulait pas lui dire qu'il avait une amoureuse, donc il avait demandé à cette amoureuse que ça soit quelque chose de privé. Et il meurt, mais elle lui a promis de veiller sur lui. Puis il y a une chose drôle et triste à la fois, quelqu'un me l'a raconté, c'est pour ça que je l'ai utilisé. On m'a raconté cette histoire. Le jour de l'enterrement, l'amoureuse arrive en avance à l'église et elle
très
va...
Très drôle ce passage.
Il y a le cercueil donc de son amoureux, du père de Dom. Elle va le toucher, elle lui parle. Elle lui parle d'amour, elle lui parle de tendresse et elle lui promet de veiller sur son fils. Et puis arrive dans la travée le prêtre qui va dire la messe, qui se dirige vers elle, elle se présente et elle lui dit « Je viens pour l'enterrement de ce monsieur ». Et le prêtre lui dit « Ah, mais ça n'est pas ce monsieur, c'est une centenaire de l'EHPAD d'à côté dont on célébrera, pour laquelle la messe sera dite tout à l'heure. Et le monsieur que vous venez accompagner est dans l'autre travée. » Et elle rit en se disant « Mais j'ai parlé d'amour à une vieille dame inconnue.
» Mais c'est aussi une parole qui engage, hein. Et puis là aussi, vous dites, cette amoureuse, elle s'adresse à son amant, à ce qui est décédé. Tu serais mort de rire si tu n'étais pas mort d'amour. Voilà, il y a beaucoup d'humour. Parlez-nous du Cap Horn. On va pas dire comment le Cap Horn arrive dans le roman, parce qu'il faut laisser un petit peu suivre l'histoire, me semble-t-il. Mais quand même, le Cap Horn, c'est un sacré décor de roman.
Alors c'est merveilleux, moi j'ai découvert cet endroit l'année dernière, en mars, donc juste un peu avant que ma maman s'en aille. Et alors d'abord je suis arrivée comme une béotienne, persuadée que j'allais voir des tas de pingouins, alors que pas du tout, les pingouins c'est dans l'hémisphère nord, et les manchots et les gorfous sauteurs c'est dans l'hémisphère sud.
Voilà, c'est dit.
C'est dit, c'est important, et les pingouins ça vole, il y en a d'ailleurs en Bretagne nord, alors que les manchots, ça nage. Mais j'ai adoré voir cet endroit. J'ai fait une excursion, une croisière, et Dom va la faire, une croisière entre donc le Chili et l'Argentine. Donc on part de Punta Arenas, on arrive à Ushuaia, le bout du monde. Moi, je croyais qu'Ushuaia, c'était l'émission de l'ancien ministre de l'écologie, et que je croyais que c'était un gel douche. Je ne savais pas du tout que c'était vraiment une ville. Et le Cap Horn, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, aller de l'île de Groix au Cap Horn, c'est assez logique, parce que ce sont deux îles, sauf que l'île de Groix fait 8 km sur 4. Le Cap Horn, c'est un caillou sur lequel il y a le gardien de phare, qui est un homme de la marine officielle, et qui vit là dans la réalité avec sa femme et ses deux filles. Et quand on arrive au Cap Horn, c'est merveilleux parce qu'il y a toute cette histoire, vous savez, des caporniers. Alors, oui. C'était des fiers marins. C'était, on doublait le Cap Horn à la voile. On avait le droit de porter une boucle d'oreille. Et puis, est-ce qu'on peut dire la deuxième chose?
Allez-y.
Sur une radio? Écoutez, les caporniers avaient le droit de faire pipi contre le vent, ce qui évidemment est une chose interdite sur les bateaux, vu que contre le vent, ça veut dire que
on est quelque peu arrosé.
Et les caporniers gagnaient ce privilège. Et voilà, c'était. Alors vous savez qu'il y a eu des millions et des millions de bateaux qui ont fait naufrage là-bas. Et quand Dom et le lecteur avec lui va arriver au Cap Horn, eh bien on monte, il y a une petite chapelle en haut, et puis il y a un albatros énorme, immense, en métal, qui a été sculpté pour résister à ces vents. Vous savez, il y a les 40e rugissant, et puis on va au 50e et au 60e aussi, hurlant et glapissant. Et il y a l'âme de tous ces marins qui est là, donc c'est vraiment un lieu. On n'en revient pas indemne, vraiment.
Et du coup, vous nous le partagez dans votre livre. Yves Viollier, vous avez lu Tout ce que tu vas vivre. Oui. Là aussi, vous vous êtes laissé prendre par ce suspense des secrets de famille, mais aussi ces personnages attachants.
Oui, et aussi par le ton de Lorraine Fouché, on vient de l'entendre. Ce roman, c'est tout à fait elle. Il est plein d'optimisme en même temps. Il y a cet humour qui est dans quasiment toutes les pages. Alors que c'est une histoire douloureuse, mais elle a ce regard positif, ce regard d'espérance. D'ailleurs, son livre est plein de chansons aussi.
On va écouter d'ailleurs un extrait de cette clé USB laissée par le défunt.
Et donc, on l'avale, ce livre, comme justement son héroïne et son héros au départ buvaient du champagne. Ce livre, on le lit comme ça. C'est un livre qui fait du bien. Oui, c'est vrai, ça, ce n'est pas un feel good, mais c'est un vrai roman tout à fait positif qui lui aussi est porteur de lumière.
Comme le héros d'homme qu'on dit cabossé mais vivant.
Absolument.
C'est bien la leçon. Camille, on va lire donc cette lettre testament du père de Dom.
Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Je vais désormais couper aux mauvaises choses de la vie. Je n'irai plus chez le dentiste. Je ne paierai plus d'impôts. Je n'aurai plus de rhume et jamais de cancer. Je ne verrai plus le veto endormir notre chien. Je ne pleurerai plus la mort d'un ami ou d'un père. Je ne quitterai plus Groix. Je n'aurai plus le cœur disloqué. Je ne vieillirai pas. Je n'aurai ni arthrose, ni dentier, ni trou de mémoire. Toi, tu vas vivre tout ça. Tu auras des caries, des taxes et des amendes, le nez qui coule, des deuils et des rhumatismes. Tu traverseras des épreuves, des chamboulements et des chagrins d'amour, parce que l'essentiel, le précieux, l'irremplaçable, c'est la vie. Alors je t'en supplie, savoure chaque seconde, mauvaise et bonne. Aie du goût pour la vie, comme on dit à Groix, sinon elle se fâche. Ne manque pas de savoir vivre, rappelle-toi combien je t'aimais, puis va de l'avant. Le passé est une encre dure à décrocher. Gouverne à barre franche sans attendre. Ne remets rien à demain, fonce. Ne tue pas le temps. Le bougre ne meurt jamais, remplis-le. Tout ce que tu vas vivre sera magnifique. Ce monde est sauvé par le parfum du café, la beauté de l'océan, la puissance du rire et la force de l'amour. Je reste assis au bord de ton cœur. Y.
After one whole quart of brandy, like a daisy I'm awake. With no Broma seltzer handy, I don't even shake. Men are not a new sensation, I've done pretty well I think. But this half pint imitation put me on the blink. I'm wild again, beguiled again. A simpering, whimpering child again. Bewitched, bothered, and bewildered. Could up and wouldn't sleep.
Ella Fitzgerald en 1956, oui, un extrait de cette bande musicale, hein, c'est un peu leur fouché ce que vous avez laissé dans votre roman. Au pied de la lettre sur RCF, on poursuit l'émission avec Lauriane Fouché pour Tout ce que tu vas vivre aux éditions Héloïse d'Ormesson et puis Yves Violier pour C'était ma petite sœur aux presses de la Cité.
Au pied de la lettre, présenté par Christophe Hénin.
Et puis plusieurs livres dans la petite bibliothèque de l'émission. Alors, Contre la nuit, c'est le dernier recueil de poésie de Stéphane Bataillon. Hein, comme il est déjà venu à ce même micro pour tenir une chronique poésie, j'en profite de son absence pour dire tout le bien que je pense de ce petit livre publié par Bruno Doucet. Une poésie tissée à partir du quotidien, de l'actualité, et même, il en est capable, des consignes pour régler son téléphone portable. Alors, un petit extrait, par exemple. Le nombre de livres que l'on pourrait écrire est sans limite. Laisser ces mots en jachère pour qu'ils reprennent des forces et s'adaptent à la terre qui vient d'être changée. Qu'ils puissent nous étonner par une vitalité dont nous sommes incapables. D'une respiration, d'une rencontre nouvelle, reprendre le chemin de l'infime aventure qui pousse notre épopée. Ça, c'est Contre la nuit, le recueil de poésie de Stéphane Bataillon aux éditions Bruno Doucet. Une autre voix d'RCF encore plus connue avec le dernier livre de Jean Pruvot qui revient chaque matinale de Stéphanie Gallet avec le mot de la fin. Et bien dans son dernier livre intitulé Le secret des mots, et bien ce passionné de la littérature, de langue française, ce collectionneur de dictionnaires, il joue avec les mots, ceux qui vieillissent, ceux qui disparaissent, ceux qui apparaissent souvent après un long voyage d'une langue à l'autre. Plein de jolis mots à découvrir qui changent le sens et de forme au fil des siècles. Les secrets des mots de l'ami Jean Pruvot est publié à la librairie Vuibert. Et puis une réédition, La vie simple, le livre de Jean Rivière qui est réédité. Je retrouve pas le, mais on trouvera facilement, je vais vous trouver ça, l'éditeur Jean Rivière aux éditions CVRH. Vous allez pouvoir nous en parler, Yves Violier, parce que Jean Rivière est un Vendéen, oui. Décédé maintenant, hein, oui. En 2002, si je ne m'abuse, oui. Et qui a reçu le prix Grand Prix de la littérature catholique. Grand Prix catholique de la littérature,
il y a 50 ans, pour La vie simple. C'est un essai d'un écrivain paysan qui, je crois, était visionnaire, qui défendait déjà dans cet essai le temps long et l'acceptation des limites, alors que nous voudrions vivre à toute vitesse et dans un monde illimité. Lui, déjà, nous enseignait la patience et le goût de prendre le temps de vivre. Un homme remarquable, un livre d'une grande qualité. Ce prix lui avait été donné par, à l'époque, Louis Chaigne et Edmond Michelet.
En 1970.
Ce livre a beaucoup, beaucoup à nous dire aujourd'hui. Il n'a pas vieilli. C'est à la fois le roman. Le livre d'un essayiste, mais aussi d'un poète. Chaque mot, il le portait en labourant, en travaillant. C'était aussi un collectionneur de pierres. Et il faut prendre le temps de le lire et de le savourer. Le CVRH fait bien de rééditer La vie simple.
Voilà, je vais prendre juste un petit extrait. Les heures de répit enlèvent la fatigue et les soucis. Mais l'absence soudaine de danger et de querelle nous prend au dépourvu. Que faire une fois délivré et disponible ? C'est joli, hein ? Et puis encore, avant qu'un fruit ne tombe, j'étends la main. Avant qu'une vie ne s'achève, j'élève mon cœur et je demande que l'un et l'autre soient consacrés. Voilà, ça c'est La vie simple, Jean Rivière. J'ai retrouvé, c'est le Centre Vendéen de Recherches Historiques qui publie, qui réédite ce très beau recueil d'aphorismes. Lauriane Fouché, ça vous parle, là, la dernière citation que j'ai pu prendre?
Alors
de
ça me parle beaucoup, d'autant plus que, donc vous avez dit qu'il y a quelques années. Maintenant, on a des téléphones avec tout le temps les réseaux sociaux. Et l'année dernière, j'ai eu un moment où je n'étais pas bien, parce que travail de deuil, parce que écriture, et j'ai vu, comme dans le livre, une consoeur qui faisait de l'hypnose, hypnothérapeute, Et elle m'a dit, elle m'a donné un devoir de vacances. Et mon devoir de vacances, qui était à faire tous les jours, c'était pendant 5 minutes, ne penser, respirer et ne penser à rien. Et j'ai eu un mal pendant 5 minutes à ne penser à rien. Et alors que ce
être
monsieur
là,
dont vous
disponible.
Parlez dit que justement c'est ce qu'il faut. Et je me suis rendu compte à quel point ça m'a aidé. Et maintenant, tous les jours, je m'efforce, et c'est le mot n'est pas par hasard, je m'efforce pendant 5 minutes de ne penser à rien, et quel bonheur.
Et de ne rien faire. Dans votre
c'est, même pas ne rien faire,
oui, oui.
C'est
ne penser à rien.
À rien. Parce qu'on peut très bien ne rien faire en pensant à
et
tout
ça,
ce qu'on doit faire.
Voilà.
Non, non, à rien.
Un temps distrait.
Voilà.
Dans votre livre, Lorraine Fouché, vous écrivez « Ce qui mène le monde, la passion, le désir, la jalousie, la soif de gloire ». Pas seulement, il y a aussi l'amour peut-être.
Oui, mais je voulais dire ce qui mène le monde en négatif. Et je mettais la passion en négatif. J'ai un moment travaillé pour la télévision en tant que scénariste. Mmh. Et nous étions des groupes, j'allais dire des poules, mais on essaye de parler français, donc des groupes d'auteurs, de scénaristes. Et à chaque fois, on nous disait « Mettez-nous bien !» Les choses importantes qui mènent le monde, mettez-nous de la jalousie, de la gloire, de la, voilà.
La passion, de la violence.
Donc, pour répondre à votre phrase, il y a la phrase que Camille a lue tout à l'heure, qui est que la vie sera magnifique parce que dans la vie, en effet, il y a l'odeur du café, l'océan, et puis il y a l'amour. Et c'est ça qui, bien, je crois que c'est vraiment ça qui nous sauve.
C'est ça que vous poursuivez aussi de livre en livre, Yves Violier, même si justement cet amour ne se révèle que, allez, j'allais dire dans l'épreuve, en tout cas dans le concret de l'existence.
Oui, tout de suite nous entendions Jean Rivière parler du sacrement du sacrement de la vie dont on profite. Lorsque j'ai écrit C'était ma petite sœur, c'est Jean Vanier qui a été à l'origine de cette écriture. Je me suis retrouvé avec lui et il m'a parlé du sacrement de tendresse. Vous le savez, ce sont ces mots. Et c'est là que j'ai été renvoyé au visage de ces élèves que j'avais eus et qui étaient dans la douleur. Et il me dit aussi, ce jour-là, il y en a qui n'ont pas de chance. Et lui qui s'est occupé de tous ces gens qui sont de tous ces enfants qui sont dans la malchance, je me suis dit, moi aussi, j'en ai fréquenté quelques-uns dans un autre univers. C'était des élèves ordinaires, ceux-là, mais qui n'avaient pas eu de chance. Et c'est pourquoi j'ai voulu écrire « C'était ma petite sœur ».
Vous mettez en exergue une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. « On est de son enfance comme on est d'un pays ».
Oui, c'est ça. Je n'aime pas tellement la formule « je suis citoyen du monde ». J'y crois, bien sûr, mais pour être citoyen du monde, il faut être de quelque part. Être né quelque part, pour reprendre, pour parler de chansons, là aussi, c'est tellement important et c'est tellement déterminant dans le cours de nos vies. Mmh. Et c'est pourquoi toujours je situe mes livres, moi, chez moi, parce que ce chez moi, ce lieu, le lieu est un personnage, je crois, pour tout romancier. Et je crois que ce lieu a été fondateur pour ce qui me concerne. Et j'essaie de le communiquer aux autres et de le rendre autant que possible universel.
On arrive au terme de l'émission, mais on est de son enfance comme on est d'un pays. C'est d'Antoine de Saint-Exupéry, je le répète, qui était familier de votre famille.
Voilà,
Lorraine
qui était
Fouché,
un ami de mon père.
Voilà, Antoine
mon
de Saint-Exupéry, c'est aussi le pays
pilote
de votre enfance.
Pilote avec lui. Et voilà, il m'avait offert Le Petit Prince. Et j'adore Saint-Ex, que ses amis appelaient Tonio. Et il y a aussi cette très belle phrase qui est « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Et c'est ça que nous essayons, je crois, tous de faire tous les jours.
Et puis cela a fait aussi que la littérature est devenue un peu votre pays aussi, me semble-t-il,
Lorraine Fouché. Absolument, absolument.
Merci à tous les deux. Je vais rappeler les titres de vos livres. C'était Ma petite sœur, c'est le livre d'Yves Violier, paru aux Presses de la Cité. Tout ce que tu vas vivre, c'est le livre de Lorraine Fouché, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Merci à Pierre-Henri Paget qui est à la réalisation, à Camille Perrier pour la préparation et pour les lectures. Mais d'ici la semaine prochaine, vous avez le temps de lire les livres que nous avons évoqués aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine.